Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Femme artiste, histoire d'un combat, histoire de combat. Quelle place pour Artemisia Gentileschi dans sa génération, celle des peintres baroques du XVIIe siècle? Quelle place dans l'histoire de l'art? En 1550, Giorgio Vasari, dans sa vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, explique que l'appétit dévorant du temps est évident. Non content d'avoir rongé les œuvres mêmes et les témoignages honorifiques d'un bon nombre d'artistes, il a effacé et éteint le nom de tous ceux dont le souvenir avait été préservé par autre chose que la piété impérissable des écrivains. De tous ceux, il aurait pu dire de toutes celles. Michela Pacini, bonjour.
Bonjour.
Quand nous évoquons cette artiste, Artemisia Gentileschi, nous nous situons au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. Était-ce une artiste très connue en Europe?
C'est une artiste qui, à l'époque, est assez connue finalement, qui est très connue en Italie en tout cas, et qui ensuite connaît une période de relative disparition, on va dire, de l'historiographie jusqu'au début du XXe siècle.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi au début du XXe siècle elle a été retrouvée? Ou pour vous le dire autrement, vous le demandez autrement, pourquoi a-t-elle été oubliée?
Alors, au début du XXe siècle, un historien de l'art italien, Roberto Longhi, lui consacre un article qui est pour la première fois un article qui n'est pas tant consacré à sa biographie, aux faits différents de sa carrière, de sa vie personnelle, mais à elle en tant qu'artiste. C'est un article qui s'intitule de façon très intéressante Gentileschi padre e figlia, Gentileschi père et fille. Et donc c'est vraiment un article qui la considère en tant qu'artiste pour la première fois. Et c'est dans l'histoire interne de l'histoire de l'art, de l'écriture de l'histoire de l'art, c'est parce que on commence à avoir une première histoire qui n'est pas une histoire des artistes mais qui est une histoire de l'art.
Oui, c'est important de bien faire la différenciation, Michela Pacini, justement parce que quand il est question de cet artiste, Artemisia Gentileschi, début du XVIIe siècle, peintre baroque bien sûr, tout de suite se greffe une histoire qui n'est pas liée à sa vie d'artiste, quoique nous ne sommes pas loin, mais qui est liée à sa vie personnelle. Souvent, cet artiste a été résumé à un épisode de sa vie. Quel est-il?
L'épisode du viol. Donc, ce qui est intéressant dans l'article que j'ai cité à l'instant, c'est justement que cet épisode-là passe tout à fait au second plan. On a une histoire de l'art qui se veut une histoire de l'art sans nombre d'artistes, donc une histoire de l'art qui s'intéresse au style, aux formes, à l'art en tant que tel, sans préjuger justement de la provenance ou de la carrière du créateur. C'est vraiment aux formes et au style, à la production artistique, qu'on s'intéresse à ces moments-là. Et donc, ça permet de justement redécouvrir des artistes qui étaient considérés sous le jour de, plutôt, de leur biographie. Donc, souvent aussi des artistes femmes.
Histoire de femmes artistes, lutter pour créer dans le cours de l'histoire sur France Culture, avec aussi de l'histoire sociale. C'est très important parce que réduire un artiste à sa biographie, c'est ne pas comprendre son œuvre, mais s'intéresser à sa biographie, c'est aussi saisir la place de cet artiste dans un champ particulier, en l'occurrence l'artiste femme. Et pour Artemisia, il n'était pas évident de créer.
Je ne pourrai jamais faire de progrès si on m'empêche de peindre des hommes nus.
Artemisia, c'est le Saint-Père, et non pas ton père, qui a décidé que les femmes ne pouvaient pas étudier l'anatomie masculine.
Mais ça me prive de la moitié de toute la peinture.
Le film Artemisia en 1997, un film d'Agnès Merlet. C'est très intéressant ici ce petit extrait parce que nous entendons Artemisia jouée par Ventila Cervi et puis Michel Serrault qui joue son père. Parce que déjà dans la compréhension de la place d'une femme dans ce monde artistique à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, mais je pense que c'était le cas avant et c'est le cas après, nous sommes dans un monde très masculin. Artemisia est élevée dans un monde masculin, un monde d'artistes déjà. Son père est peintre. Quel rôle joue son père? C'est pas normal, en fait, de faire venir sa jeune fille dans l'atelier. Si, ça se faisait?
Alors, c'est moins normal, on va dire, pour une fille à l'époque. Mais c'est normal pour un garçon. Ce sont des hiérarchies vraiment familiales d'apprentissage, de formation qui se mettent en place dès le Moyen-Âge. Donc, c'est, pour un garçon, en tout cas, c'est normal.
Et pour une fille, ça ne l'est pas. Justement, il faut toujours relativiser. Nous parlons d'Artémisia. Artémisia est-elle une exception? Ou alors, trouvons-nous d'autres exemples de femmes qui entrent dans l'atelier de leur père, de leur frère, etc., et qui y travaillent?
Alors, vous avez cité Vazar et à l'instant, il parle de deux femmes artistes, Sophonisbe Anguissola, qui apprend la peinture au sein de sa famille par son père, et elle a aussi des sœurs qui ont été peintres elles-mêmes, et Porfiria de Rossi, une autre femme, la première femme sculptrice, si on peut dire ça comme ça, citée par Vazar, et qui, elle aussi, très probablement, apprend le métier dans un atelier qui était un atelier familial.
Avec nous également dans le cours de l'histoire sur France Culture, Martine Lacaze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS et dans L'œil et l'archive, une histoire de l'histoire de l'art publiée à La Découverte. Vous mettez cette mise en abîme, c'est très beau, hein, l'histoire de l'art, excusez-moi, Michaela Passini, c'est votre ouvrage une histoire de l'art. Martine Lacaze, dans La naissance d'un combat pour ces femmes artistes, nous évoquons ici le rôle d'Artémisia, toujours avec cette volonté de mettre un peu de nuance. Artémisia n'est pas une exception. C'est une femme artiste, il y avait d'autres femmes artistes.
Oui, tout à fait. Et pour reprendre ce qui a été dit auparavant, effectivement, si on rencontre beaucoup de garçons dans les ateliers, les filles aussi, quand elles sont filles de peintres, travaillent dans l'atelier. Et jusqu'à très tard, jusqu'on peut dire à la fin du 18e, au début du 19e, la majorité des artistes, enfin des femmes qui s'imposent dans la carrière artistique, sont issues du métier, ont travaillé à l'intérieur de l'atelier familial. Pour ce qui est de l'extrait du film d'Agnès Merlet, il faut rappeler que à cette époque-là, les modèles posaient habillés, donc la question de la nudité est à revoir aussi. Voilà.
Non, mais c'est important de le souligner, Martine Lacaze, donc commissaire d'exposition. Et justement, vous êtes historienne de l'art dans votre démarche pour essayer de comprendre la place de ces femmes. Peintre femme, 1780-1830, naissance d'un combat. C'est l'exposition qui s'était tenue au musée du Luxembourg à Paris pour laquelle vous avez travaillé. C'est très passionnant de voir en fait se mêler ici l'histoire des femmes dans la société, l'histoire des femmes artistes. Justement, pour ces femmes artistes, nous avons évoqué le fait d'un oubli certain. En tout cas, c'est ce qui arrive pour Artémisia. Dites-nous, Martine Lacaze, pourquoi a-t-elle été oubliée? Elle œuvre au début du XVIIe siècle, on s'en souvient encore à la fin du XVIIe, bien sûr, et puis tout doucement, ça disparaît. Pourquoi?
Disons que l'histoire de l'art, quand elle s'est imposée en tant que discipline, c'est vrai que cette histoire-là commence à partir du XVIe siècle avec le texte fondateur de Vasari, mais s'impose aussi une définition de l'art qui reprend des concepts finalement anciens et qui attribue l'invention, donc ce qui permet à l'art de s'émanciper de sa dimension artisanale, à l'esprit, et l'esprit est viril. Les femmes étant réputées être privées de cette qualité, puisqu'elles sont renvoyées à la matière, sont aussi évacuées de cette histoire de l'art qui fait la part belle à la puissance d'invention, au dessin, à l'esprit.
Oui, parce qu'il y a une question également de genre. Michaela Passini, chercheuse au CNRS, L'œil et l'archive, une histoire de l'histoire de l'art. Justement, une femme qui désire peindre en ce début du XVIIe siècle se voit cantonnée à des genres particuliers. L'histoire de l'art, c'est immense. Les genres à représenter, c'est absolument gigantesque, du portrait à la scène historique, à la scène religieuse. Alors, à quoi est cantonnée une femme qui veut être artiste ?
Mais justement, à ce qu'on appelle les scènes de genre. Elle a exclu notamment de la peinture d'histoire, qui est le genre noble par excellence de l'histoire de l'art, et elle est cantonnée plus à des scènes privées, personnelles, à la peinture d'objets, à la peinture de scènes familiales, etc., etc.
Et le portrait ? C'est important, une femme artiste peut réaliser des portraits.
Oui, et justement, il est très intéressant d'étudier comment ces femmes artistes s'auto-représentent.
Oui, c'est ça qui est important, parce que au moment d'essayer de saisir la trajectoire d'une artiste, Artemisia Gentileschi, il y a l'idée de la formation, nous l'avons dit, dans l'atelier de son père. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Est-il imaginable pour une femme d'intégrer, je ne sais pas, quelque chose qui ressemble plus à une institution à ce moment-là dans l'Italie du début du XVIIe siècle, une école des beaux-arts, quelque chose comme ça?
Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre d'institution, mais il y a un moment où les choses se figent, où ça devient clair que oui, si certaines institutions sont accessibles, elles les sont dans une certaine mesure seulement. Justement, il y a la question, ça se pose plus tard qu'à l'époque d'Artemisia, mais la question justement de l'accès à l'étude du nu, du modèle nu. Et l'imposition justement aux femmes d'un modèle drapé jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est quelque chose justement qui les exclut de la possibilité de produire de la peinture, notamment de la peinture d'histoire, du grand art.
Oui, le grand art. Martine Lacasse, justement, la place des femmes face à l'institution qui permet de créer, face à toutes ces écoles, ces académies et autres, quelle est-elle ?
Alors, déjà, en ce qui concerne les académies, au XVIe comme au XVIIe, ce ne sont pas des lieux d'enseignement, ce sont des lieux de réflexion, où certes des artistes interviennent, mais en tant qu'ils peuvent s'exprimer oralement ou par voie de texte. Donc ce sont des lieux qui réunissent des amateurs, des érudits, et absolument pas des lieux de formation. La formation se fait en atelier, via les guildes, enfin toute l'organisation qui régit l'Académie de Saint-Luc. Pour la France, c'est différent. On a l'Académie royale, là aussi il faut attendre la fin du 18e pour que des choses changent, et notamment toute la critique qui dans la période révolutionnaire vise le fonctionnement pédagogique l'Académie royale de peinture. Là aussi, contrairement à l'idée répandue, il se trouve entre cette fin du 18e et ce début du 19e, avec l'ouverture notamment de l'atelier David, mais après tous les autres ateliers qui vont s'ouvrir, les femmes vont accéder à la pratique du nu et vont pratiquer la peinture d'histoire. Les femmes qui s'imposent dans les années 1790-1800 font de la peinture d'histoire, et elles se tourneront ensuite vers le genre, ce qu'on appelle le genre historique, quand ce type de peinture sera devenu à la mode parmi le public et adopté aussi très largement par les artistes masculins. Donc on n'a pas une sorte d'histoire linéaire qui nous mène à cet événement majeur que serait l'ouverture aux jeunes femmes de l'École des Beaux-Arts. Il y a eu des périodes où elles ont pu accéder à l'étude du nu et pratiquer la peinture d'histoire.
C'est très important de le rappeler, cette évolution, tout cela n'est pas figé. Et dans le cas d'Artemisia Gentileschi, nous sommes en Italie au début du XVIIe siècle, et nous voyons bien qu'il est tout à fait possible pour une femme de peintre. Le fait est là, elle est peintre, elle est formée dans l'atelier. Femme artiste est un combat, femme en soi est un combat.
Tout ce que j'ai dit ces jours derniers durant l'interrogatoire, en présence de votre seigneurie, au sujet de la personne d'Agostino Tassi, ici présent, est la vérité. Et pour la vérité, je suis prête à signer cette déposition et à la confirmer ici, sous ses yeux. J'ai déjà dit à sa seigneurie que l'an passé, Agostino, ici présent, fréquentait la maison de mon père, son ami. Ils exercent la même profession. Il venait en ami et j'avais confiance en lui. Un jour, il arriva à la maison en alléguant certains prétextes que j'ai déjà racontés lors de mes autres interrogatoires. Je lui faisais confiance et je n'aurais jamais cru qu'il puisse avoir l'audace de me faire violence et de faire du tort à moi, ainsi qu'à l'amitié qu'il montrait pour mon père. Je ne m'en rendis compte qu'au moment où il me saisit par la taille, me jeta sur le lit, ferma la porte de la chambre et s'approcha de moi pour me faire violence et m'ôter ma virginité. Je luttai pendant un long moment, puisqu'il était arrivé après manger et que cette lutte dura jusqu'à 23 heures.
Une lecture sur France Culture dans les chemins de la connaissance en 1989 de la déposition d'Artemisia Gentileschi lors de son procès. Michela Pacini, elle a été violée dans un atelier. Elle n'a pas été violée parce qu'artiste, elle a été violée parce que femme. Et ce parcours d'Artemisia Gentileschi nous montre bien cette place difficile des femmes au XVIIe siècle, mais ensuite aussi. C'est un long combat. Ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt dans cette écriture de l'histoire de l'art. Vous nous l'avez dit, bien souvent, en fait, la femme artiste est réduite à l'anecdote de sa vie, au cas particulier. C'est tout un cheminement pour montrer que non, il s'agit d'artistes dans leur temps. Et pour Artemisia, justement, c'est une artiste majeure qui s'inscrit dans quelles grandes écoles de peinture?
Alors justement, elle est redécouverte comme l'une des Caravaggisti ou Caravaggeschi, c'est-à-dire la peinture réaliste italienne du XVIIe siècle. Et c'est à ces moments-là de redécouverte de cette école dans sa globalité qu'elle est redécouverte aussi.
Oui, elle est redécouverte liée au Caravage. C'est intéressant, hein, c'est que le père d'Artemisia, Orazio, était lui-même, alors je ne sais pas si on peut dire proche du Caravage, en tout cas, il se connaissait. Artemisia l'a peut-être rencontré, le Caravage, on n'en sait pas grand-chose en fait.
Non, on n'en sait pas grand-chose.
Pourtant, il y a énormément de sources sur elle. C'est ça qui est intéressant.
Oui.
Vous disposez de quoi, historienne, pour étudier une femme artiste, au sens où là, nous avons les tableaux. Mais pour Artemisia, il y a tout ce qui concerne le procès, mais bien plus encore. C'est une femme qui écrit énormément.
Oui, alors il y a des extraits, il y a des lettres, il y a des textes qui sont elles. Il y a évidemment les témoignages visuels de sa peinture. Il y a aussi ce qui est évidemment à prendre en compte, tout ce qui concerne tous les archives et les sources qui concernent le contexte social, sociopolitique, économique aussi de la production de l'art à son époque.
C'est très intéressant, on ne va pas détailler tout le parcours d'Artemisia Gentileschi, mais enfin, il y a Rome, il y a Florence, il y a Naples, il y a même l'Angleterre, hein, il y a Londres. Nous voyons ici se dresser le portrait d'une vraie femme d'affaires, c'est-à-dire que c'est elle qui dirige. Être artiste peintre au XVIIe siècle, ce n'est pas seulement tenir des pinceaux, c'est tenir un atelier. Il y a du monde autour d'elle. Comment se construit son travail? Elle passe beaucoup de temps à peindre, bien sûr, mais il y a un atelier, il y a des gens autour d'elle, il y a des gens qui fabriquent les pigments. Et puis elle fait des correspondances, elle n'arrête pas d'écrire pour essayer de vendre ses œuvres. On sent bien que c'est une femme de réseau, est-ce qu'on peut dire ça un peu?
Tout à fait. Alors, les artistes de l'époque le sont évidemment, hein. C'est une question d'être vraiment entrepreneur de sa propre œuvre, de sa propre carrière. Et justement, l'histoire de l'art montre bien à quel point cette fonction-là a commencé à être prise en compte avec l'histoire sociale de l'art des années 1970-80. Et c'est à ces moments-là, justement, qu'on commence à redécouvrir des femmes dans toutes leurs facettes, hein, 360 degrés, et non seulement comme, des personnes qui subissent, en quelque sorte, leur propre biographie.
Oui, c'est important de le souligner, Martine Lacasse, parce que vous avez étudié hein, ces peintres-femmes. Et justement, dans ces peintres-femmes, nous nous arrêtons aux œuvres qui est tout à fait normal, c'est leur création. C'est un univers entier qui se construit, c'est une économie gigantesque autour de ces ateliers tenus par des femmes.
Oui, parce que apprendre à devenir peintre, c'est effectivement apprendre à peindre, mais c'est apprendre aussi les stratégies de carrière. Et on voit que toutes ces artistes, et pour aujourd'hui Artemisia Gentileschi, à travers la correspondance qu'elle entretient avec les collectionneurs, avec les poètes, la réussite de son métier en passe par justement le réseau relationnel. Euh, elle, Il y a un phénomène qui est très à la mode à ce moment-là, qui est celui des galeries de portraits. Et on voit dans ses correspondances qu'elle s'attache justement à promouvoir ces autoportraits pour qu'ils prennent place dans ces galeries de portraits, qui sont des lieux de collection, mais des lieux d'échange intellectuel aussi, puisqu'ils donnent lieu à une littérature, ces galeries littéraires. Et un de ces portraits, de ces autoportraits qui est conservé à la au musée Barberini à Rome, la montre en vis-à-vis, en face à face avec un poète Fontanella qui lui a dédié nombre de ses poèmes.
Et justement, pour illustrer ses correspondances, écoutons une lettre adressée par Artemisia à un illustrissime seigneur.
Illustrissime seigneur, j'ai toujours été assurée de vos courtoisies et aujourd'hui, plus que jamais, j'en vois les faits. Et afin que vous gardiez le meilleur souvenir de votre servante, je désirerais savoir par quels moyens je puis vous adresser un tableau que j'ai achevé il y a un bon moment, représentant l'image de Sainte Catherine et dédié à votre seigneurie illustrissime, comme je vous l'ai écrit dans une de mes précédentes lettres il y a quelques mois. Il est aussi accompagné d'un premier essai exécuté par ma fille, et puisqu'elle est ma fille, vous ne vous moquerez pas d'elle. Et ces envois seront un gage, si Dieu le veut, afin qu'au mois de mars, comme on dit que le comte s'en va, je sois digne de servir mon prince naturel, car je serai sûre alors, grâce aux faveurs de votre seigneurie illustrissime, d'arriver à très bon port. Voyez donc en quoi je suis susceptible de vous servir, car je serai toujours plus que prête à attendre vos ordres. Je vous fais une très profonde révérence. De Naples, le 11 décembre 1635.
C'est l'air d'Artemisia de Francesco Cavalli. Et puis juste avant, nous avons entendu cette lettre d'Artemisia Gentileschi. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, Artemisia était Wanda Benes. Merci Wanda. Justement, dans la lecture de cette lettre, il y avait l'évocation de sa fille. Il y a la place d'une femme artiste qui s'adresse aux plus puissants. Et puis, il y a la question de l'autoportrait du visage de femmes, des femmes artistes représentées. Michela Pacini, alors bien sûr, Artemisia, elle s'est fait remarquer par ses autoportraits. Elle s'est mise en scène dans ses tableaux, notamment Judith qui est en train de décapiter Holoferne, qui est comme une image, une mise en abîme du viol qu'elle avait subi. Les femmes artistes ont-elles tendance à vouloir mettre leur figure dans l'œuvre, de se représenter comme une volonté de montrer leur présence, ou alors fonctionne-t-elle comme tous les ateliers d'artistes de ce moment-là? A-t-on beaucoup d'autoportraits de femmes artistes?
Alors, il y en a, mais je ne sais pas si on peut affirmer que par rapport à des collègues masculins, ils le font plus ou moins, ou que c'est une tendance particulièrement féminine. Je pense justement que l'historiographie féministe des années 70 a vraiment voulu mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de tendance particulièrement féminine dans tout ça. Ce sont des pratiques d'atelier, des pratiques d'artistes, et ce qui est intéressant pour nous, c'est justement d'utiliser ces sources visuelles, au même titre que les sources produites par des peintres hommes, pour voir comment les peintres femmes arrivent, en se auto-représentant, à négocier leur position, qui est une position très complexe au sein du champ artistique.
Oui, une position complexe, une position de dominé. C'est une évidence, parce que les femmes sont dominées dans la société, dans le champ artistique, c'est également le cas. Et justement, dans cette histoire de l'art, à quel moment allons-nous avoir cette bascule, ce nouveau regard porté sur les artistes du passé? Une histoire genrée, une histoire de l'art genrée, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'était à quel moment? En même temps que les mouvements féministes?
Alors oui, on peut évidemment retracer une longue histoire d'une prise de conscience de la part féminine de l'histoire de l'art, mais il y a un vrai moment de rupture à partir des années 70. Il y a ce texte qui est vraiment une classique maintenant de la critique féministe de l'histoire de l'art. Pourquoi il n'y a pas eu de grande artiste femme, de Linda Nochlin, une historienne de l'art américaine, qui date de 1971 et qui ouvre vraiment ce débat très important sur la place des femmes dans l'histoire de l'art.
Martine Lacasse, justement la place des femmes dans l'histoire de l'art et la place d'Artemisia Gentileschi dans l'histoire de l'art, mais c'est une place parmi d'autres. En fait, dans votre travail sur les peintres femmes, nous voyons bien qu'il y a énormément de peintres femmes. Il y a la redécouverte de ce qui était une évidence en fait pour les contemporains. Il y avait des peintres femmes.
Oui, tout à fait. Et en ce qui concerne la période qui était présentée à l'exposition du musée du Luxembourg, on s'apercevait qu'elles étaient très présentes dans la vie mondaine, artistique de l'époque, puisque certaines d'entre elles tenaient des salons, que leur atelier était couru pour s'y former, mais aussi pour des raisons de mondanité, qu'on en parle dans la presse et qu'elles s'inscrivent complètement et participent aux mutations stylistiques qui s'opèrent à ce moment-là. Je voudrais revenir sur la question de l'autoportrait. Il n'est pas question effectivement de savoir s'il y a plus d'autoportraits féminins que d'autoportraits masculins. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une différence dans les usages et dans la temporalité de ces usages. À partir du XVIe siècle, l'autoportrait masculin est très pratiqué par les hommes, mais il se fait plutôt en fin de carrière, c'est-à-dire quand la reconnaissance est acquise. Et pour les femmes, on s'aperçoit que la pratique de l'autoportrait finalement condense ces deux temporalités. C'est une manière de s'affirmer en tant que peintre et de revendiquer aussi une reconnaissance. De même que les artistes hommes, quand ils se représentent au terme de leur carrière, ce qui, je vous le disais, est le plus souvent la généralité, si en exceptant Dürer ou Il Parmigianino, mais ils se présentent en habit de gentilhomme, alors que très souvent, les artistes femmes se présentent avec les outils de la peinture. Et c'est particulièrement le cas avec l'autoportrait dit en allégorie de la peinture, mais c'est un autoportrait qu'a fait Artemisia Gentileschi.
Oui, Artemisia Gentileschi qui se représente en allégorie de la peinture. C'est un tableau qui est conservé dans la collection royale de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Excusez du peu, bah oui, elle est passée à Londres, Artemisia. Et justement, il y a quelque chose d'intrigant dans cette histoire, dans la manière de se comporter quand vous vous sentez en position, et que vous l'êtes d'ailleurs, de dominer dans un monde, en l'occurrence là, très très masculin. Il faut trouver des biais, des parades. Michela Pacini, pour une femme artiste et dans l'histoire de l'art en général, il y a toujours cette volonté de trouver la brèche là où il va être possible de créer, alors éventuellement dans un genre où les hommes peuvent reléguer les femmes, ou alors avec d'autres moyens. Est-ce que c'est quelque chose qui est constant, ça, pour l'étude des femmes artistes?
Alors oui, il est très important, je pense, de justement bien comprendre les stratégies qui peuvent être des stratégies d'affirmation et de vraiment de légitimation aussi de son propre travail par des femmes artistes. Et c'est justement sur ces domaines que s'est beaucoup concentré l'histoire de l'art récente pour la redécouverte de ces femmes et aussi des formes d'art qui étaient considérées comme des formes mineures et dans lesquelles ces femmes sont très présentes, comme les arts décoratifs.
Oui, c'est très important hein, parce que nous voyons bien, et ne serait-ce que l'expression même d'art décoratif montre une hiérarchisation dans la création. Nous en sommes les héritiers ou les victimes, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais en tout cas, ces formes d'art dites mineures ont permis à de nombreuses femmes de pouvoir créer, parce que c'est un peu ça la question aussi, c'est créer. Et puis à côté de cette question, c'est aussi de vivre. parce qu'il faut réussir à vivre de son œuvre. Dans une histoire de l'histoire de l'art, l'œil et l'archive que vous publiez à La Découverte, Michela Pacini, il y a cette étude complexe de l'oubli, de l'effacement, de la redécouverte. Peut-on dire que un artiste ou une artiste qui a fait son œuvre dans un art considéré mineur a plus de chances d'être oublié? C'est une question d'oubli et de mémoire sans cesse.
Alors, c'est une question d'oubli et de mémoire. C'est aussi, évidemment, une question de hiérarchie. L'histoire de l'art, c'est un discours savant sur l'art qui est très fortement prescriptif. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une description de ce qui s'est passé, mais c'est un discours qui détermine très fortement la production artistique. Parce qu'il établit, tout d'abord, ce qui est art, et ce qui ne l'est pas, ou ce qui est art décoratif, art mineur, art industriel, etc., etc. Donc ce processus de redécouverte intéresse en fait les artistes hommes au même titre que les artistes femmes, hein. Et c'est un processus vraiment qui se développe sans cesse dans l'histoire de l'art, hein. On redécouvre des pans entiers de la production artistique qui, pour une époque précédente, pour les critères de valeur d'une époque précédente, étaient justement relégués au rang de mineurs.
Faire de l'histoire, c'est jouer avec le temps, faire de l'histoire de l'art aussi sur les représentations qui évoluent sans cesse. Et puis, au milieu de cette histoire, il y a, on va dire, le tempérament des individus, ça joue aussi beaucoup. Être une femme dans la société bien difficile au début du XVIIe siècle, être une femme artiste est bien difficile. Artemisia Gentileschi le sait plus que d'autres, mais il est possible d'être une femme indépendante, en tout cas de chercher à l'être, que ce soit à Rome, à Florence, à Naples ou à Londres.
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Neither sighs, nor tears, nor moan, protestations, imprecations, move not her, nor quench my burning. She's so frigid and so rigid, that my love procures but scorning, that my love procures but scorning. When I follow her, she flies me, swiftly running, with more cunning than the hare on earth that spies me, still disdaining my complaining, and to hear my grief denies me, and to hear my grief denies me. Say alone, or it be so then, shall she glory in my story, and I unrevenged gore then, prithee, Cupid, be not stupid, bend in my defense thy bow then, bend in my defense thy bow then.
Sans soupir, ni larmes, ni deuil, en 1652 par Nicolas Lanier. Alors, qui l'en attribue une liaison avec Artemisia Gentileschi? Le jugement moral dirait que ce n'est pas bien, elle était mariée. Mais alors, en tout cas, ça montre une forme d'indépendance majeure. C'était dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérics. Il y a de ça aussi Michela Pacini, parce que l'histoire de l'art est une chose, mais la place des individus dans la société dans laquelle ils ont pu produire leur art est à prendre en compte. Et lorsqu'il est question des femmes artiste, c'est très important. On ne peut pas comparer la production d'un homme dans une société donnée et d'une femme dans la même société. Vous prenez ça aussi en compte dans votre étude d'une histoire de l'histoire de l'art?
Tout à fait. Alors, la question vraiment des déterminations sociales du talent, ça a été au centre du débat féministe sur l'histoire de l'art, de la critique féministe de l'histoire de l'art, parce que justement, les historiennes de l'art féministe qui ont commencé à redécouvrir un certain nombre de femmes artistes, notamment, ont fait bien plus que ça. Ce n'est pas juste une question de redécouverte, c'est une critique beaucoup plus radicale de la manière dont l'histoire de l'art est écrite. Et justement, c'est une critique qui porte sur l'effet que en parlant d'artistes masculins, on donne souvent par acquis un certain nombre de choses, et justement la question du talent qui s'exprimerait sans conditionnement, de façon tout à fait immédiate, alors que justement quand on est une femme, ces talents-là, pour s'exprimer, vous parlez de combat, c'est tout à fait ça. Donc, prendre en compte de façon vraiment fine l'histoire sociale, les déterminations sociales de ce qui est l'expression artistique de la personne est évidemment extrêmement important. Et l'histoire féministe de l'art a montré à quel point l'histoire de l'art classique le faisait très très peu, pour les artistes masculins comme pour les artistes féminines.
Et c'est important ce que vous nous dites là, parce que d'un seul coup nous saisissons combien cette histoire de l'histoire de l'art est très complexe, parce qu'il faut prendre en compte le genre bien sûr, mais comme une évidence, même si cela a été souvent écarté, le regard des temps passés, qui eux-mêmes ont effacé ou alors mis à l'honneur hein, certains que nous avons oubliés aujourd'hui. Comment peut-on faire cette démarche d'histoire de l'art en évitant tous ces écueils? En fait, on ne peut pas les éviter, il faut se confronter à eux sans cesse pour essayer de ne pas tomber dans le piège des clichés, des représentations. C'est un peu ça votre démarche aussi, Michaela Bassini, de réfléchir à l'histoire de l'art, mais identifier tous les pièges pour les éviter. Il y en a beaucoup, hein.
Tout à fait. Alors, c'est une histoire de piège, vous avez raison. C'est une histoire qui se veut une histoire autoréflexive. On parle de tournant autoréflexif de l'histoire de l'art. C'est justement être très conscient de ce que l'on est en train de faire. Quand j'ai parlé un instant de l'article qui a redécouvert Artemisia Gentileschi en 1916, on peut se réjouir, bien évidemment, de cet article de redécouverte, de cette manière très formaliste de prendre encore en compte l'art, la production de la peintre et non pas sa biographie. Mais il faut faire très attention, évidemment, parce que si on lit avec attention cet article, on voit bien que, justement, Roberto Longhi, son auteur, redécouvre cet artiste parce que pour lui, c'est justement un peintre qui n'a pas les caractéristiques, dont la peinture, dont la production n'a pas les caractéristiques qu'il attribue, lui, à une peinture féminine. Donc on est encore tout à fait dans ce genre de stéréotypes, très très présents dans l'histoire de l'art. Donc il faut évidemment beaucoup, beaucoup se méfier de ce que l'on lit et de ce que l'on produit, nous.
Et puis pour Artemisia, c'est vrai que nous avons ici un personnage, alors un personnage inspirant, parce que il y a des livres sur Artemisia Gentileschi, il y a des films aussi, nous avons cité celui d'Agnès Merlet. Et puis dans cette vie, il y a des découvertes d'archives, notamment la correspondance d'Artemisia avec son amant Francesco Maria Meringhi, avec tout de suite la mise en fiction sur France Culture, c'était en 2013.
Quelle chance vous avez de voyager et de découvrir tant de nouvelles choses. Et d'avoir une si belle maison qui vous attend à votre retour. Et de posséder de si beaux livres. Celui-ci doit être très ancien. Il est encore manuscrit.
Oui, il a une centaine d'années.
De Occulta Philosophia. Heinrich Cornelius Agrippa. Qui est-ce ?
Médecin, théologien, juriste. Il parlait au moins 8 langues et a vécu un peu partout. Parfois au service d'un prince. Il tenait les femmes en haute estime. En l'honneur de Marguerite de Bourgogne, il a rédigé un traité intitulé « De la noblesse et de la supériorité de la femme ».
Voilà qui est amusant. Vous n'en auriez pas un exemplaire ? J'aimerais le lire.
Et voilà, Artemisia, qui avait des lectures, alors évidemment d'un autre temps, mais parce que la production de l'œuvre fait écho à la société qui l'a produit, c'était en 2013. Dites-nous, Martine Lacasse, il y a cette lecture, voire relecture de l'histoire d'Artemisia, évidemment à l'aune de la société qui fait cette lecture-là, c'est-à-dire une lecture féministe. Artemisia est un personnage qui d'un seul coup est formidable pour les féministes.
Oui, pour revenir à ce qui a été dit précédemment, effectivement, si l'étude de la sociologie du métier, des conditions du métier, est indispensable pour essayer de retrouver une part de la vie de ces acteurs du monde artistique des périodes passées, il ne faut cependant pas tomber dans l'écueil d'une nouvelle catégorisation. Et je pense qu'elle est aller à la recherche d'une peinture féminine est un danger dans lequel ces redécouvertes ont pu tomber. Et on retourne à une sorte d'essentialisation en voulant rechercher les traits de ce que serait la féminité en peinture. C'est à utiliser avec beaucoup de précaution, me semble-t-il. Comme mettre l'accent sur la biographie est un danger aussi, puisque on l'a vu avec Artemisia Gentileschi, l'épisode du viol a servi d'écran à l'analyse de sa peinture aussi, qui s'inscrit dans des débats esthétiques de son temps. Par exemple, pour revenir à l'autoportrait en allégorie de la peinture, il y a certes une volonté d'affirmation en tant qu'artiste, mais elle s'inscrit aussi à travers cette œuvre dans un débat qui animait les cénacles intellectuels et artistiques de l'époque, à savoir cette conciliation ou ce paradoxe constitutif de la peinture qui réunissait ce qu'on appelait le disegno interno, c'est-à-dire tout ce qui relevait de la dimension intellectuelle, donc de l'invention, des capacités d'esprit, et le disegno esterno, c'est-à-dire sa matérialisation dans la matière. Et il se trouve que dans ce tableau, par l'arc qu'elle trace avec son corps entre ses deux mains, elle réalise justement, elle résout ce paradoxe auquel dont débattaient les théoriciens de la peinture et les intellectuels du temps. Comme la question des femmes fortes, une certaine histoire féministe y a vu justement un sujet privilégié pour affirmer une création dite féminine. Il se trouve que le thème de la femme forte, les galeries de femmes fortes, était un sujet extrêmement à la mode dans cette Italie baroque.
Qu'entendons-nous par femme forte, Martine Lacasse? Comment on peut définir ce qui peut être à la mode dans l'Italie baroque?
Eh bien, c'est une iconographie qui est très ancienne, puisqu'elle existe dès le Moyen-Âge, à travers ce qu'on appelait les cycles des neuf preux et des neuf preuses. Donc ce sont des femmes qui s'illustrent par leur comportement, leurs agissements. Ce sont des femmes bien sûr exceptionnelles, qui font exception à leur genre, puisqu'elles se retranchent de leur faiblesse dite native. Certaines même peuvent avoir un comportement violent, alors que la violence en ce qui concerne les femmes était plutôt envisagée négativement, mais le seul endroit où cette violence trouve une rédemption, c'est quand elle se fait au service de la patrie, au service de la foi. Et après le concile de Trente, on a une réévaluation de ces figures féminines, mais qui ont été actualisées à différentes périodes comme incarnation du combat de l'Église contre l'hérésie, d'une ville contre une autre ville, notamment le thème de Judith a été sans cesse réemployé.
Martine Lacasse, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Des femmes peintres du XVe siècle à l'aube du XIXe siècle » publié au Seuil. Justement, est-ce que Artemisia Gentileschi a une place particulière dans cette histoire de l'art, une histoire genrée? Ou bien, et ça, je ne sais pas ce que vous allez me répondre, n'y a-t-il pas d'histoire genrée de l'histoire de l'art, au sens où Artemisia était une artiste dans son temps qui a dû combattre avec des contraintes particulières, celle d'être une femme dans un monde ultra masculin? Y a-t-il quelque chose de spécifique justement dans ces femmes peintes que vous avez étudiées?
Bien justement, dans les stratégies qu'elles choisissent pour, à l'intérieur des débats contemporains, des débats stylistiques, se faire une place, c'est ce qui fait leur particularité. La particularité, elle est aussi du côté de leur réception. Mais en ce qui concerne le travail qui se fait dans l'atelier, le désir de trouver une place auprès d'une clientèle, de trouver une reconnaissance, je pense que ce combat-là est le combat de tous les artistes. Il se double quand il s'agit de femmes, justement de toutes les préventions qui les concernent en tant qu'elles sont des femmes. Mais enfin, il faut être extrêmement prudent avec cette histoire de genre. Elle a tout à fait son sens en ce qui concerne l'analyse de la réception des discours qui sont faits dans le choix des stratégies, mais elle ne doit pas envahir toute l'appréhension de leur travail. De même, l'histoire du genre, elle est à raffiner, puisque on s'aperçoit justement quand on retourne à cette littérature du XVIe et du XVIIe siècle, que les styles sont genrés, c'est-à-dire qu'un homme ou une école artistique peut être vue comme féminine, une autre peut être vue comme masculine. Par exemple, le maniérisme toscano-romain est perçu comme étant plus viril que le maniérisme vénitien, puisqu'il fait usage de la couleur, de l'indétermination de la touche. Et la couleur, là aussi, si on se réfère à une perception ancienne, est toujours tirée du côté de la cosmétique, de la tromperie, du féminin. Mais un artiste masculin peut avoir un style féminin. Donc, il faut réintroduire de la complexité dans cette question-là, plutôt que fonctionner avec des catégories bien arrêtées et remettre de la complexité dans cette histoire pour éviter justement les pièges.
Martine Lacasse, mais merci vivement de mettre en avant la complexité, parce que c'est essentiel dans un monde qui se veut de plus en plus simple. Faire simple, c'est souvent aller vers l'erreur. La complexité, ça nous permet justement d'éviter ces pièges. Michaela Pacini, vous êtes bien d'accord avec ça? Mettons de la complexité, nous l'avons dit dans cette histoire de l'histoire de l'art. La complexité, c'est bien. Faut faire attention quand même, parce que si c'est complexe, c'est difficile à construire cette histoire-là.
Absolument, mais justement cette complexité est très intéressante. On parlait des usages stylistiques du genre. Il y a des usages polémiques qui sont très intéressants à explorer en histoire de l'art. Ma collègue vient de dire justement que le maniérisme toscano-romain plus linéaire était considéré comme un style typiquement masculin. Quand il est importé en France par l'école de Fontainebleau, eh bien les historiens de l'art qui au début du XXe siècle doivent retracer cette histoire d'une importation massive de formes, d'artistes, d'idées, d'iconographie de formes italiennes, et qui cherchent, eux, à produire le récit d'une histoire nationale de l'art, se retrouvent avec, face à cet ennemi et ce rival, l'Italie de la Renaissance, eh bien, pour discréditer ces formes d'art, considèrent que l'art du Primaticcio, de ces artistes italiens qui viennent en France, qui étaient considérés comme typiquement masculins, ce maniérisme-là, pour eux, il est féminin, justement, parce qu'il importe des formes qui sont considérées comme étrangère à la culture nationale, à la culture française. Donc, à une époque de nationalisme, ça devient féminin pour les discréditer.
C'est passionnant. Et d'ailleurs, Michaela Pacini, ça me permet d'évoquer votre ouvrage « La fabrique de l'art national, le nationalisme et les origines de l'histoire de l'art ». Et puis, je rappelle, « L'œil et l'archive, une histoire de l'histoire de l'art ». Merci vivement à vous et merci aussi à Martine Lacasse, et peintre femme, 1798-1830, naissance d'un combat, il y a un catalogue.